Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, vous connaissez bien sûr l'énigme du sphinx qui s'adresse à Œdipe et lui demande quelle est la créature qui marche à quatre pattes, à trois pattes, puis sur ses deux pattes au cours de la vie. La réponse est bien sûr l'homme, car il marche à quatre pattes étant petit, acquiert la position debout et finit par se déplacer avec une canne étant plus vieux. Voici ainsi résumés les âges de la vie, l'enfance, la vie adulte et la vieillesse. Un sujet sur lequel se sont penchés le généticien et académicien des sciences Axel Kahn et historien, ethnologue, commissaire d'exposition Yvan Broard dans un livre intitulé « Les âges de la vie, mythes, arts et sciences » paru en 2012 aux éditions Lamartinière. Un ouvrage interdisciplinaire parsemé de portraits photographiques, de sculptures et de peintures depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours pour illustrer ces marques du temps qui laissent ces traces indélébiles sur nos corps. Axel Kahn, Yvan Broard, bonjour.
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 Merci d'être avec nous au studio de Canal Academy. Vous avez choisi d'illustrer la couverture de votre livre par une sculpture d'un artiste contemporain qui s'appelle Mauro Corda et qui s'intitule « Le grand cycle de la vie » et qui démarre donc avec une petite fille qui devient adolescente, puis jeune adulte et enfin qui vieillit jusqu'au moment où elle se maintient avec une canne. Et en bout de fil de ces personnages qui se suivent, on retrouve un enfant, laissant supposer ainsi que le cycle de la vie se renouvelle. Qu'en est-il de cette allégorie sur le plan artistique, Yvan Broard, et sur le plan scientifique, Axel Kahn? Yvan Broard.
Eh bien, sur le plan esthétique, je dirais, les artistes, dont comme Mauro Corda, artiste contemporain, a traité ce thème à travers une croissance et une décroissance, à travers les âges de la vie. Ce qui n'a pas toujours été le cas, dans la mesure où parfois, les artistes se sont contentés, comme vous le disiez tout à l'heure, de symboliser les trois âges de la vie. Parfois, ils ont représenté les âges de la vie à travers sept étapes, parfois aussi à travers 12 étapes. Donc nous avons choisi l'œuvre de Mauro Corda dans la mesure où elle était contemporaine et permettait d'actualiser en fait cette évolution, voyez, qui a marqué toutes les générations et tous les hommes à travers le temps.
Axel Kahn.
Oui, vous avez très bien noté ce qu'il y a de singulier dans ces âges de la vie par Mauro Corda. C'est que, après que la vieille femme a été sculptée et présentée, il y a, comme au début, une petite fille. C'est-à-dire que Mauro Corda, effectivement, il nous indique très clairement ce cycle de la vie. Ce cycle de la vie, c'est avant tout, en dehors de tout spiritualisme particulier, je ne suis pas bouddhiste, je ne crois pas à la métempsychose, donc c'est avant tout la succession des générations. Il y a donc une génération, la petite fille jusqu'à la vieille personne, et immédiatement après, mais dans la continuité. Donc il indique également combien il est totalement essentiel pour savoir qui on est, ce que l'on est, de pouvoir se resituer dans un continuum, le continuum d'un lignage. Et c'est un des points qui est abordé. Et cela fait également allusion à des mythes beaucoup plus anciens, qui est le mythe du phénix qui renaît en quelque sorte de ses cendres. Ici, c'est un phénix qui renaît, mais jamais identiquement le même. En fait, il renaît sous la forme de la génération d'après. C'est beaucoup plus le cycle des saisons. Tous les printemps se succèdent, ce ne sont jamais les mêmes printemps.
Donc, on parlera bien sûr de la filiation au cours de cette émission. Avant la naissance, il y a la gestation, la maternité. La maternité est un moment fort de la vie, parmi d'autres, largement représentée dans la statuaire africaine, mais également en Occident, avec notamment la Vierge à l'enfant. La maternité a-t-elle toujours été sacrée, Yvan Broard?
Absolument. On retrouve à travers le temps, à travers l'espace, toujours cette représentation de la mère et de l'enfant. Nous avions d'ailleurs fait au Réfectoire des Cordeliers une très grande exposition qui mettait en parallèle ces différentes maternités, femmes et enfants, aussi bien en Afrique qu'en Asie, qu'en Europe, etc. Il y a toujours eu associé en fait à cette image, quelles que soient les civilisations, un aspect sacré, qu'on retrouve en particulier en Occident dans le concept de la déesse-mère, mais un concept qui peut aussi évoluer, allant par exemple des vierges romanes où il y a une position qui est véritablement hiératique, à la Vierge de tendresse, par exemple, qui, dès le XVIe siècle, associe la Vierge à la femme, humanise en fait l'enfant de manière à ce qu'il y ait une proximité plus grande entre les fidèles, entre les populations et l'image sacrée de la mère et de l'enfant.
Axel Kahn, votre regard justement plutôt scientifique sur cette question de la maternité ?
Pas simplement scientifique, scientifique, sociologique et profondément humaniste. Je me pose une question, je dois dire, à propos, et je l'aborde d'ailleurs au vu de cette image, à propos d'une image qui m'a très profondément impressionné, d'ailleurs que je connais depuis maintenant 5 ou 6 ans, qui est la femme Imba enceinte, dont la photographie est représentée, qui est une femme d'une beauté absolument inouïe, mais au-delà même de la beauté, de la tendresse de cette main qui caresse un ventre distendu par l'enfant qui va naître, toute la tendresse du monde, il y a plus que cela. Il y a dans les yeux de cette femme qui sans doute vit des jours qui ne sont pas toujours faciles avec la domination masculine, la domination de l'époux puisque elle est mariée, il y a une fierté d'être femme et de mettre au monde, un défi réellement aux difficultés du monde, que j'ai interprété à ma manière, je ne vais pas demander ce qu'elle voulait dire, que j'ai interprété à ma manière, et cette manière qui est évidemment nourrie des connaissances que l'on a aujourd'hui en biologie. C'est-à-dire que cette femme me semble dire, vous avez beau faire, vous autres, et avant tout vous autres les hommes qui prétendez vouloir nous dominer, vous avez beau faire. Si vous êtes là, c'est que nous sommes là auparavant. Nous sommes à l'origine de tout. Les garçons, c'est nous qui les faisons. Les filles, c'est nous qui le faisons. Nous sommes vraiment à l'origine du monde. Et nous savons aujourd'hui que ces femmes qui sont essentielles pour faire les futurs hommes, pour faire les futures femmes, elles sont également capables de faire tout ce que les hommes et les femmes font. Et cela m'amène à aborder la question, qui est une question un peu mythique, puisque d'un point de vue scientifique, on est très loin de l'avoir maîtrisée. Si jamais on savait aujourd'hui se passer de la maternité féminine pour mettre des enfants au monde grâce à la mise au point de ce fameux utérus artificiel dont parlait déjà Aldous Huxley. De telle sorte que les hommes et les femmes contribuent chacun par leur gamète à égalité en quelque sorte. Ce serait la matrice artificielle qui confectionnerait en quelque sorte, qui interviendrait dans le développement de l'embryon, puis ensuite des dispositifs sociaux s'occuperaient de l'enfant nouveau-né, si bien que la femme pourrait vraiment pleinement assumer, par exemple, son ambition professionnelle. Est-ce que ce serait, de ce fait-là, une chance inouïe des femmes qui enfin surmonterait la malédiction « tu enfanteras dans la douleur » Elles n'enfantent déjà plus dans la douleur, mais enfin, la malédiction reste. Ou bien, est-ce que ce serait une privation inouïe de ce qui peut être l'épiphanie absolue de la vie féminine ? Voilà, je pose la question, évidemment, j'ai l'humilité en tant que monsieur de ne pas y répondre.
En même temps, on peut laisser le choix aux femmes, justement. Donc, tout au long de votre livre, vous abordez bien sûr les différents points, donc l'enfance, l'adolescence. L'enfance, bien sûr, le regard que nous pouvons avoir aujourd'hui sur l'enfance a beaucoup changé. Auparavant, l'enfant était vu comme un petit adulte. Aujourd'hui, on estime qu'il y a bien sûr différents stades de l'enfance. L'adolescence est aussi un concept relativement récent. Alors aujourd'hui, Yvan Broard, que peut-on dire justement sur cette partie de l'enfance et cette partie de l'adolescence sur le plan esthétique, puisque vous êtes plus sur cette partie iconographique du livre ?
Eh bien, sur le plan esthétique, je pense que l'enfance et l'adolescence ont toujours été un dénominateur commun dans l'œuvre des artistes. Il y a dans l'art traditionnel une forte représentation de l'enfance, comme quoi l'enfance représentait quelque chose d'important. Et notamment dans le livre, bon, j'ai fait une focalisation à travers les œuvres des artistes des Provinces-Unies, par exemple au XVIIe siècle, où on abordait l'enfant dans une société qui était très particulière, puisqu'elle était précapitaliste, en quelque sorte, au XVIIe siècle, et où l'enfant jouait un rôle absolument considérable, qui est présent, omniprésent, je dirais, dans la peinture, dans la mesure où l'enfant représentait celui qui assurait la génération future et celui qui entretiendrait, en fait, ce capital que les parents avait mis de côté, en quelque sorte. Et on s'aperçoit que dans la peinture des Provinces-Unies, la peinture hollandaise, comme on l'appelle communément, eh bien, il y avait cette priorité donnée à l'enfant et en même temps tout un symbolisme qui était attaché à l'enfance, dans lequel on voit en particulier qu'il était extrêmement important pour la mère, qui avait un rôle absolument considérable, de soigner son enfant, de l'éduquer. L'école prenait ensuite le relais de tout cela. Et tout ça est très, très marqué, en fait, dans la peinture des Provinces-Unies. Et au-delà de ça, si on regarde la deuxième lecture, la plupart des tableaux, on s'aperçoit que la plupart du temps, eh bien, les enfants servaient, je dirais, de miroir aux adultes. C'est-à-dire que l'enfant devait montrer le chemin aux adultes, les valeurs morales aux adultes. Et de même, il était indiqué parfois dans beaucoup de tableaux que les adultes, impérativement, et c'était parfois signifié sur une lettre, par exemple, inscrite dans le tableau, eh bien, que ces adultes devaient être impérativement un modèle pour les enfants. Est-ce que l'on trouve cela encore de nos jours ? C'est difficile. Au niveau de la peinture, ça n'est pas forcément évident. Il n'empêche que la représentation de l'enfance chez les peintres contemporains, voire de l'adolescence, est toujours à l'ordre du jour.
Alors j'imagine que les choses ont beaucoup changé avec Jean-Jacques Rousseau et son traité Émile ou l'éducation, Axel Kahn, justement, sur cette vision de l'enfance.
Je pense que ce qu'il y a de très intéressant dans la vision purement humaine de l'enfant, c'est ce en quoi elle dépasse un déterminisme dont nous sommes l'héritier. Je veux m'exprimer. Bien évidemment, les oiseaux, les mammifères, d'autres animaux aussi s'occupent des enfants. En tout cas, les oiseaux et les mammifères s'occupent de leurs petits. Maman canne est extrêmement précautionneuse avec ses canetons, etc., etc. Et s'il n'y avait pas un instinct pour les adultes et notamment pour la femelle, mais des fois le mâle et la femelle, par exemple chez les manchots empereurs ou d'autres couples d'oiseaux, comme cela les oiseaux souvent se mettent à deux pour nourrir les petits. Les petits ne survivraient pas et le lignage disparaîtrait. Et je suis évolutionniste, darwiniste, et donc je ne doute pas que nous ayons hérité de ce sentiment d'avoir l'instinct de protéger nos petits. Cela étant dit, on a quelque chose de plus, en tout cas de beaucoup plus développé que tous les autres animaux, qui est notre projection dans le temps. Et cela amène à conférer à l'enfant deux autres significations qui sont liées à l'acquisition par Homo sapiens, même par Homo, on va dire, sans doute nos ancêtres non sapiens l'avaient déjà, cette notion du temps. Premièrement, l'enfant, c'est pour n'importe qui d'entre nous, un peu cette page presque blanche dont la texture du cahier est certes génétiquement déterminée, dirions-nous aujourd'hui, mais qui n'a pas encore été écrite par le grand écrivain du destin de la vie. Et par conséquent, nous sommes toujours dans l'attente, dans la curiosité de ce que sera ce récit lorsque l'enfant aura vécu. Projection dans le temps. Souvent, on investit l'enfant, effectivement, d'arriver à mettre en œuvre ce que nous n'avons pas su faire, de nous consoler de nos frustrations. Et puis l'enfant également, c'est la première familiarité, en fait, que l'on peut avoir avec la première des trois immortalités dont je parle dans ce livre. La première des immortalités, c'est évidemment l'immortalité du lignage. Je parlais du lignage tout à l'heure. C'est que une fois que nous serons morts, que tout de nous sera disparu, du moins de terrestre, je ne fais pas allusion aux gens qui ont la foi, eh bien, il persistera le fruit de cette lignée humaine qui a une potentialité d'éternité, qui est la lignée germinale, qui fait que certains de nos gènes, même quand on n'a pas d'enfants, on a bien des petits cousins, des neveux, etc., que certains de nos gènes se baladent quelque part dans la nature. Donc l'enfant, pour un être qui a la vision du temps, c'est naturellement celui que l'on est enclin à protéger. C'est cette émotion pour cette fragilité. Mais également, c'est cette curiosité d'un devenir que l'on aimerait connaître, dans lequel on investit beaucoup, et c'est également l'impression que, grâce à lui, eh bien, Mauro Cordat l'a dit, il y a le cycle de la vie et le renouveau de la génération d'après.
Donc c'est un investissement, en fait, sur une durée sans limite.
Oui, investissement a pour moi, comment dirais-je, une référence étroitement économico-libérale que je récuse. C'est un investissement affectif. En réalité, c'est une partie de notre être. C'est-à-dire que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'essentialité pour nous de se situer dans un lignage, vaut naturellement par ce fait qu'on a besoin de savoir nous sommes le père, nous sommes le fils et la fille ou la fille de tel père, de telle mère. Mais également, que seront nos descendants ? Est-ce que nous allons nous perpétuer ? Et donc, nous sommes cette notion selon laquelle nous sommes un des éléments, pour nous essentiels, mais néanmoins l'un des chaînons d'une chaîne qui continue avec l'enfance, c'est une partie de la réalité anthropologique d'Homo sapiens.
Alors, ces étapes de la vie passent par des rites. Il y en a plusieurs qui sont décrits dans cet ouvrage. Des rites, les rites sont nécessaires, j'imagine, pour passer ces étapes, passer de l'enfance à l'adolescence. Yvan Broard.
Absolument, il y a des rites de passage. Et là, dans ce livre, nous avons choisi en particulier d'illustrer ces rites par les marques qu'ils pouvaient laisser sur le corps, notamment dans les sociétés premières. Alors, des marques qui peuvent être très différentes, c'est-à-dire des marques qui peuvent être des tatouages, par exemple, qui peuvent être aussi, de manière beaucoup plus douloureuse, parfois des perforations, qui peuvent être aussi, au niveau esthétique, simplement le port de bijoux et qui permettent de marquer les étapes de la vie. C'est-à-dire que à chaque rite, à chaque étape de la vie, il y a une sorte de mort et le rite permet en fait de renaître, c'est-à-dire d'accéder du stade de l'enfance au stade de l'adolescence, mais qui n'est pas très marqué dans les sociétés premières. On passe tout de suite pratiquement à l'âge adulte. Et puis, on peut trouver aussi, je dirais, des marques qui permettent de déterminer véritablement, non pas des rites, mais simplement des statuts. Notamment le statut, par exemple, de la femme mariée ou le statut de la femme qui a son premier enfant ou, auparavant, le statut, en fait, de la jeune fille. Et là, il y a de multiples illustrations dans ce livre qui le démontrent. Alors, le problème, par exemple, de l'excision ou de la circoncision est aussi évoqué dans le livre parce qu'il marque un rite de passage. Dans la plupart des sociétés premières, eh bien, l'enfant est considéré, qu'il soit garçon ou fille, comme n'ayant pas de sexe. Et c'est par la dette de sang qu'il paye par l'excision ou la circoncision qu'il acquiert en fait son identité d'homme ou de femme.
La circoncision n'est pas mue par une logique justement médicale, Axel Kahn ?
Oh non, d'un point de vue originel, sans doute, elle a des justifications symboliques. Alors, l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire, il se pourrait que certains rites symboliques aient de manière inconsciente une rationalité, on va dire, de conservation du lignage de l'espèce. Ça n'est pas impossible. Mais il n'empêche, pour l'essentiel, on le voit très bien avec l'excision. L'excision n'a aucune vertu particulière.
Oui, bien sûr.
Ça a beaucoup d'inconvénients et aucune vertu particulière. Donc, sans doute, la circoncision, il en va strictement de même. Le problème du rite est extrêmement important parce qu'il marque une des caractéristiques de l'humanisation d'Homo. L'une de ses caractéristiques, c'était l'idée du temps. Une autre, évidemment, c'est l'accès au monde symbolique. Et le rite, c'est ce qui, en permanence, établit la relation entre la vie humaine matérielle et le monde symbolique. C'est ce qui connecte notre vie à un récit symbolique qui peut être fondateur, qui est plus ou moins élaboré, qui va devenir, à un moment donné, le récit religieux. Et le plus important de tous ces mythes, de ce point de vue-là, c'est évidemment le rite de deuil. Les rites mortuaires, qui sont extraordinairement anciens et, selon moi, dont l'existence a dû être tout à fait parallèle au phénomène d'humanisation d'Homo, c'est-à-dire d'acquisition par un primate du genre Homo de ses capacités mentales de type humaine. Et ça, c'est dû au fait que la vision que l'on a, puisqu'on a la conscience du temps, nous fait savoir que l'on va mourir, nous fait connaître l'horreur de la mort, de la putréfaction des chairs, et par conséquent a amené, pour arriver à surmonter cela, a amené à imaginer que la mort était un passage vers un autre état plutôt désirable de l'être, qu'il faut marquer par un rite. Et donc le rite mortuaire, c'est en réalité la moyen qu'a trouvé l'humanité depuis son origine, je pense, pour arriver à exorciser l'épouvante de la mort. Voilà.
Alors, avant la mort, il y a la vieillesse. Parlons justement de cette étape aussi de la vie. Il y a une série de portraits d'hommes et de femmes qui sont vraiment burinés, hein, voilà, par le temps, avec des visages striés de rides, qui dégagent cependant une douceur, une sagesse. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique de la vieillesse et de laisser paraître les marques du temps. Est-ce que l'image de nos aînés s'est transformée, Yvan Broard, justement, sur cette image de la vieillesse?
Je pense, dans la mesure où, traditionnellement, dans les arts, depuis pratiquement le Moyen-Âge, on peut peut-être remonter au-delà, mais là, on n'est plus, j'irais, dans la représentation figurative, on est plus au niveau des textes, par exemple, dans l'Antiquité, il y avait une ambivalence qui était associée, en fait, à la vieillesse. La représentation, à la fois, de la vieillesse comme sagesse, comme expérience, comme acquis, et, à côté de cela, en parallèle, la vieillesse qui était associée, en fait, eh bien, à quelque chose d'extrêmement négatif. La plupart du temps, les sorcières, par exemple, sont représentées sous les traits d'une vieille femme. Si on va, par exemple, au Louvre, hein, dans les galeries, on s'aperçoit, par exemple, que la diseuse de Bonaventure, c'est quelqu'un qui est très vieux. Si on regarde Suzanne et les vieillards, on s'aperçoit également qu'il y a ce côté libidineux, par exemple, de l'homme âgé par rapport à la jeune femme, ce qu'on retrouve également dans beaucoup de peintures de Cranach. Donc il y a eu cette ambivalence, voyez, de vision, en quelque sorte, sur la vieillesse. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il faut impérativement, alors on n'en est plus là, bien entendu, mais vous évoquiez tout à l'heure, par exemple, des traits burinés, etc. On peut aussi, et c'est ce que nous essayons de faire, et là, il y a très peu de temps, nous avons fait une très belle exposition de Patrick de Ville, qui a d'ailleurs illustré beaucoup cet ouvrage, sur ce qu'on pourrait qualifier de la beauté des rides. Alors bien entendu, ça va peut-être à l'encontre, je dirais, de tout ce qui est les soins esthétiques, de la cosmétique, etc. à l'heure actuelle, et puis de tout ce que l'on peut, j'irais, entrevoir pour rester en perpétuelle jeunesse. Mais je pense qu'il faut, quelque part, assumer, et ce qui n'est pas forcément le cas dans nos sociétés occidentales, où les personnes âgées sont parfois rejetées, je pense qu'il faut essayer de reproclamer cette beauté des rides et en fait cet aspect positif, voyez, de la vieillesse.
C'est une crise de jeunisme, Axel Kahn, pour fuir la mort ?
Crise de jeunisme, je ne sais pas. En tout cas, il y a certainement une évolution. Il y a une double évolution. Il y a une évolution démographique et une évolution psychologique qui lui est pratiquement contraire. L'évolution démographique, c'est que la diminution de la natalité, l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance fait que chaque année, on a des chances de vivre plus longtemps. Et donc, la population est en train de se modifier considérablement dans ses équilibres. Dans 20 ou 30 ans, les plus de 50 ans seront quasiment majoritaires. Les plus de 40 ans, en tout cas, seront majoritaires dans la société. Ce ne sera plus du tout la pyramide des âges telle qu'on la connaît. En même temps, il y a une focalisation exclusive de la société sur une vie qui est l'icône de la vie désirable, qui est une vie belle, jeune, séductrice, productrice et consommatrice. Alors même que cette image-là correspond de moins en moins numériquement à la masse de la population. Alors évidemment, d'un point de vue consumérisme, c'est tout avantage, puisque tous ceux qui ne sont plus physiologiquement dans cet état sont prêts à dépenser tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'y rester, de conserver les aspects de la jeunesse. Et d'ailleurs, l'évolution non seulement de la cosmétique, de la chirurgie, mais également réellement de la médecine, va leur permettre sans doute d'aller dans ce sens-là. Il y a eu des progrès très importants de fait dans les éléments du vieillissement. En même temps, ce dont a parlé Yvan Broard, qui est que l'on considérait dans le temps la vieillesse pour le seul avantage qu'elle avait, qui était la sérénité, l'expérience et la sagesse, utiles à la conduite de la société, et de moins en moins valorisées, puisqu'on ne demande plus du tout d'avoir de l'expérience, vu que l'on veut, à chaque génération, tout changer. Ce qui était vrai hier ne sera plus vrai demain. Ça sert à quoi d'avoir de l'expérience dans ces conditions-là ? Et cette sagesse du vieux et cette image du vieux sage est de plus en plus remplacée par l'image du vieux fou, en réalité inconséquent. Et donc, ça, c'est une schizophrénie. Notre société est largement schizophrène de ce point de vue-là, puisqu'elle est de moins en moins l'image d'elle-même qu'elle projette dans l'idéal. Il va falloir que nous apprenions à surmonter cela.
Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec notre âge, avec nous-mêmes. Et puis, j'imagine que derrière tout ça, on recherche un peu l'idée d'une vie éternelle. Alors finalement, ce mythe de la pierre philosophale, même dans notre vie de tous les jours, se retrouve être encore assez présente, Yvan Broard.
Oui, d'ailleurs, nous avons évoqué dans le livre, justement, ces fontaines de jouvence, ces fameuses fontaines de jouvence, notamment celle de Cranach en particulier, qui est extraordinaire, pour montrer ce désir d'éternelle jeunesse. Plus d'éternelle jeunesse, d'ailleurs, que d'immortalité. Et puis, dans le dernier chapitre, j'ai voulu insister, dans le dernier focus de ce livre, sur l'os qui était un petit peu le trait d'union entre la vie et la mort dans toutes les cultures. C'est-à-dire qu'on retrouve, par exemple, au niveau des reliques, par exemple, des saints, ce qui allait en Occident permettre aux vivants de se protéger contre la maladie, éventuellement d'avoir une espérance de vie plus importante. Et qu'on retrouve aussi dans toutes les sociétés, notamment les sociétés premières, que ce soit en Amérique latine, par exemple, ou en Océanie. Et dans ce livre en particulier, il y a une image fabuleuse qui est celle du vieux papou qui dort sur le crâne de son ancêtre. Et l'os, en fait, là, apparaît véritablement comme le trait d'union essentiel entre la vie et la mort. Et il va puiser, en fait, pendant son sommeil, en prenant le crâne de son ancêtre comme appui-nuque, eh bien, toute la sagesse dont on parlait tout à l'heure et qui va lui permettre, en fait, de répondre aux questions qu'il se pose.
Dernière question pour terminer cette émission. Vous avez un chapitre, curieusement, consacré aux stars. Que viennent faire les stars dans les âges de la vie, Axel Kahn? On a une très belle photo de Rita Hayworth, James Dean, Elvis. Que viennent
voilà,
faire ici?
C'est parce qu'il y a deux, on va dire, états transversaux qui s'opposent à la continuité du temps. La raison pour laquelle on redoute un peu les effets du temps sur notre corps, c'est que le regard des autres change lorsque nous vieillissons. Ne serait-ce d'ailleurs que sexuellement, nous devenons moins attirants. À moins qu'on ait du pouvoir, ou bien à moins que l'on soit une star. Une star brille toujours, tant qu'elle est star. Par définition, une star est inaltérable. Si bien que le phénomène de la starification, le phénomène du pouvoir, tel que l'on lit dans les yeux des autres l'importance que l'on a, sont en quelque sorte des moyens de contrecarrer les effets du temps. Et ceci explique pourquoi, sans doute, quand on a perdu cette notoriété de star et quand on a perdu le pouvoir dont on disposait auparavant, il y a des personnes qui ne peuvent absolument pas l'accepter, pour lesquelles c'est en réalité une petite mort qui est aussi grave que la mort définitive. Ce sont des gens qui n'ont jamais eu l'habitude de se voir en tête-à-tête avec eux-mêmes, qui n'ont jamais existé que dans l'admiration ou la considération ou l'importance qu'ils lisaient dans les yeux des autres. Et dès lors que cela disparaît, et en termes de pouvoir, quand vous perdez votre pouvoir en 3 jours, toute cette considération disparaît, c'est absolument extraordinaire, c'est très rapide. Alors ces gens-là ne supportent pas. Et ça explique un phénomène qui est dérisoire quand on y réfléchit, qui est ironique, qui sont ces gens qui ont eu des positions extrêmement importantes et qui, plutôt que de n'avoir plus de pouvoir, sont prêts à tout accepter, tout. Par exemple, faire des rapports sur l'évolution des dinosaures dans l'Antarctique, après qu'ils ont été quasiment premiers ministres, etc., etc.
On sent que vous visez quelqu'un, on dira pas le nom.
Bon, en plus, la personne, j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Mais cela montre qu'il y a quelque chose, naturellement, qui fait sourire. Mais il faut le comprendre, je crois, et c'est ce que j'ai voulu noter à travers cette isolation et cet isolement de cet âge du pouvoir comme moyen de contrecarrer les effets du temps.
D'accord, on passe de Rita Hayworth à la position de Premier ministre. Écoutez, on pourrait en parler encore pendant très longtemps de ce livre, mais je pense qu'il faut laisser aussi aux éditeurs le plaisir de le feuilleter, de l'acheter. C'est un peu l'idée. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, « Les âges de la vie », paru aux éditions La Martinière en 2012, et qui donc est une suite logique de plusieurs ouvrages. Un premier consacré à l'histoire de la médecine, un autre sur l'histoire de la pharmacie, et puis un autre avenir, Axel Kahn, sur la médecine populaire.
Voilà, dans ce domaine-là, ça c'est surtout Yvan qui s'en est chargé. C'est un livre sur l'histoire de la médecine populaire. Il m'a demandé d'en faire la préface et je l'ai resitué dans ce qui me passionne, vous l'avez compris, qui est quels sont les traits qui nous permettent de comprendre l'émergence de l'humain.
Voilà, et donc une sortie prévue en février 2012. Merci à vous d'être venu nous voir et puis j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Merci à vous.
Merci.